Bonjour à toutes et à tous, curieuses et curieux, toujours décalés, différents, pas pareil même. Bonjour et bienvenue, vous écoutez l'onde très curieuse de ce lundi 7 avril. Aujourd'hui, on ouvre une nouvelle porte, ou peut-être une fenêtre, sur l'essentiel qui rappelle l'existentiel. Aujourd'hui, c'est notre rendez-vous mensuel avec les rédacteurs de l'Écho de la Réhab, ce collectif de soignés et soignants du service de réhabilitation psychosociale de l'hôpital Sainte-Marie de Privas, qui se retrouve chaque semaine autour d'un atelier d'écriture pour transformer, vous le savez maintenant, le monde au tamis de l'imaginaire et de la réflexion et transformer l'écrit en poésie. Pour cette émission, on continue d'explorer ce que la maladie mentale fait à l'identité et on aborde notamment le processus créateur à l'œuvre dans le rétablissement et la nécessaire création d'un autre rapport à soi. Par quel nouveau prisme lit-on le passé pour se réinventer? Comment l'imaginaire peut influencer notre nouvelle lecture de nous-mêmes? Et l'humour dans tout ça? Autant de questions que l'on va aborder avec vous cinq autour de cette table. D'abord, merci à toutes et tous d'être là. Et bien, pour vous présenter, on va faire le rituel petit tour de table où vous allez pouvoir vous présenter et puis dire aussi le rapport que vous entretenez avec l'Écho de la Réhab ou le journal du service de réhabilitation psychosociale. Alors, ben on commence avec, à ma gauche, tout de suite, Didier, qu'on connaît déjà un peu. Bonjour Didier.
Oui, bonjour Sophie, bonjour à tous. Donc effectivement, j'ai connu l'Écho de la Réhab à ma sortie de l'hôpital, ma première sortie de l'hôpital suite à ma dépression. Et je suis bien rentré par la porte, donc dans cette salle où toute l'équipe m'a accueilli avec bienveillance. Et je continue.
Et tu continues. Merci Didier. Guillaume.
Bonjour Sophie, bonjour à tous.
Bonjour.
Alors moi j'interviens depuis 10 ans, je fais partie du collectif de l'Écho de la Réhab depuis 10 ans. Je travaille à l'hôpital comme psychologue et je crois qu'on partage cette question commune au journal d'interroger la place de chacun dans le monde. Et voilà, dans ce double positionnement à la fois comme travaillant à l'hôpital, mais en même temps avec ces interrogations que je viens confronter à celles des autres.
Merci. À côté de toi, il y a Johan. Bonjour Johan.
Bonjour.
Pour qui c'est la première fois ici autour des micros. Alors Johan, toi, quel est ton rapport à l'Écho de la Réhab?
Ben, moi, ça fait à peu près 3 mois que je participe à l'Écho de la Réhab. Pour moi, c'est une activité dans la semaine qui fait partie de mon programme d'activité que j'ai mis en place à la sortie de l'hôpital. Je trouve l'Écho de la Réhab intéressant. Ça me permet de m'ouvrir aux autres. J'ai eu des problèmes de drogue, des problèmes pénibles. J'ai été hospitalisé, j'ai laissé tomber la drogue, je m'en suis sorti, j'ai créé un chez-moi, j'ai mis en place des activités, des gens autour de moi, voilà.
Ouais. Tu commences déjà, on va en reparler.
Oui,
hein.
Tout à fait.
Justement, ce que tu sembles déjà nous dire, c'est ce que tu mets en place dans ce processus de rétablissement.
C'est ça.
On va en parler ensemble dans quelques instants. D'accord. Merci, Joanne. À côté de toi, Edith.
Oui, c'est ça, Edith. Je viens de La Boulte. Ça fait 4 ans que je viens, même un peu plus, à l'Écho de la Réhab, et j'y trouve toujours autant de plaisir. Je viens à raison de 2 séances hebdomadaires.
Voilà. Merci, Edith. Qu'on connaît ici à Fréquence 7, puisque c'est la deuxième ou troisième fois, je ne sais plus.
Deuxième
fois que tu viens. Et Mélanie. Bonjour Mélanie.
Bonjour. Bonjour à tous.
Alors toi, c'est la première fois.
Oui.
Et l'Écho de la Réhab ou le journal, quel
ça
est ton
fait,
rapport?
Bah, ça fait 15 jours que j'ai commencé le journal.
Ok.
Suite à l'hospitalisation aussi. C'est un endroit qui me fait énormément de bien. Et à part dire que j'ai 25 ans, je ne sais pas comment me présenter exactement.
C'est pas mal déjà, pour commencer. Et peut-être que, justement, on va avoir l'occasion de que tu nous présentes... qui t'es ou alors ce que tu portes, puisque tu es venue, tu n'es pas venue toute seule, tu es venue aussi avec une chanson qui va nous faire réagir tout à l'heure. On va la passer dans quelques instants. Mais pour l'instant, on va commencer notre discussion autour de, bah, d'une question qui nous anime, qui vous anime, avec laquelle vous êtes venue. C'est la question de ce qu'il faut mettre en place pour trouver le rétablissement. Quel processus créateur, par quel processus créateur on arrive justement à se rétablir? Enfin, il me semble, mais vous pouvez me dire que je raconte n'importe quoi.
Après l'hospitalisation.
Ouais, après l'hospitalisation. Voilà. Ah bah, tu entres dans le vif du sujet avec un texte d'Edith.
Alors, sortir de l'hôpital pour rentrer chez soi n'est pas toujours facile. Se retrouver seul après avoir été très entouré peut faire peur. La solution, c'est peut-être l'hôpital de jour avec une fréquence hebdomadaire. Les activités y sont proposées avec les autres. Les relations se nouent et le lien social se crée. Le processus de création sociabilise. C'est grâce aux bulles des bandes dessinées que j'ai retrouvé le goût de la lecture. Les BD m'ont aidé à sortir de ma bulle. Dans mes dessins, les crayons de couleur me ramenaient à l'enfance. L'évolution se crée dans les traits du dessin et leur signification. J'avais grandi. Voilà.
Merci, Edith. Tu parles de lien social aussi.
Oui, parce que la création ne peut pas se faire tout seul dans son coin. Donc on crée, bien sûr, mais il y a une part de soi qui est couchée sur le papier, soit par le dessin, soit par l'écriture. Mais le regard des autres est important aussi. Les autres sont très importants dans le processus de recréation d'une identité. Qui a été mise à mal par la pathologie.
Ouais, on en a pas mal parlé la fois dernière. Alors, tu as parlé aussi d'enfance, et ça, on va aussi en parler. Bon, allez.
Ouais. Alors, moi, il me semble que, oui, la création, elle peut commencer tout seul. Et pour moi, ça a même commencé avant la sortie de l'hôpital, même au début de mes soins, au début de mon hospice, parce que pour sociabiliser, effectivement, on faisait des activités en groupe, qui sont planifiées dès le départ, qui sont obligatoires pour les soins, et de manière à ne pas mettre les gens en difficulté, ce premier processus se fait par, je l'avais dit le mois dernier, se fait par un autre support, un autre média. Effectivement, pour moi, c'était des instruments de musique. Et même si on n'a pas envie de parler, parce qu'on n'a pas encore retrouvé toutes nos idées ou l'usage de la parole ou l'envie de parler en groupe, le fait de communiquer d'une autre manière par des instruments de musique, ça oblige à créer quand même, puisqu'il faut arriver, par les exercices qu'on nous fait faire, à communiquer avec les autres. Donc voilà, cette première étape ne passe pas forcément par la parole. Et là, c'était en contact direct puisque c'était pendant l'exercice de groupe. Mais ça peut aussi se passer tout seul chez soi. Edith, par exemple, tes dessins, tu les as fait chez toi. Et puis maintenant, tu vas à un atelier de dessin de groupe. Mais ce n'est pas une obligation.
Joanne, toi, comment tu... par quel processus tu te recrées et par quel processus tu sors peut-être ou tu oublies, tu quittes une part de toi pour en ouvrir une autre?
De quel moyen? C'est-à-dire que moi, je me suis retrouvé à la sortie de l'hôpital avec un appartement qui n'était pas très confortable. J'ai commencé par me mettre tout le confort possible dans mon appartement. Des meubles, des nouveaux meubles, des affaires. J'ai eu l'aide de mes parents qui m'ont donné des affaires, des appareils ménagers, tout ça. J'ai mis en place aussi, tout de suite à la sortie de l'hôpital, des occupations de l'hôpital de jour. Notamment aussi du bénévolat dans le Resto du Cœur. Ça me permet d'être avec du monde, de pas me sentir isolé. Et
donc ça passe par des choses aussi, enfin de création, de recréation de ton univers proche qui peut être très très pratique, très pragmatique, comme ton appartement qui va peut-être t'immerger, t'imprégner d'autres couleurs, d'autres tonalités.
C'est
que
ça.
Tu peux donner à ta vie.
C'est ça. Je me sens mieux. Je me sens plus en forme, mieux écouté, mieux compris. Je me sens moins malade grâce à tout ça. Voilà. J'ai des gens aussi qui m'aident, des docteurs, des curatrices, des monsieur de la justice, un monsieur de la justice du SPIP qui m'aide, qui va essayer de me trouver du travail peut-être. C'est tout, ça passe par tout ça, par des gens, par ce que j'ai mis en place autour de mon appartement, dans mon rétablissement. Bon, le nouveau Johan.
Bonjour. Bonjour. Enchanté. Guillaume, tu voulais ajouter.
Oui, je crois, Johan, ce que tu nous dis et qui est vraiment important, c'est ce que toi, tu as mis en place.
Ouais.
Hein. Et la dimension créatrice, elle est à cet endroit-là. Il ne suffit pas de dire, eh ben, on m'a dit de faire comme ça, alors je vais faire comme ça. La démarche, elle est vraiment profondément individuelle. C'est un moment créateur, un moment de transformation en fait de soi-même, que de pouvoir dire, eh ben maintenant j'ai besoin de ça et je vais le faire. Voilà, c'est là aussi qu'est l'instant de création. Il n'est pas que dans la création artistique. On pense à ça forcément. C'est pour ça aussi qu'on le favorise beaucoup à l'hôpital. Mais c'est pas que ça. L'ensemble du processus de rétablissement est un mouvement de création très individuel.
Tout à fait.
Oui, d'ailleurs, on dit on recrée son identité. On retrouve, mais c'est pas exactement la même que celle qui était avant. Donc oui, pour moi, on recrée une identité qu'ensuite on montre aux autres et qu'on étalonne par rapport aux gens qu'on rencontre.
Et on recrée, donc on retrouve pas forcément. Au moment de préparer cette émission, vous m'avez parlé aussi de l'oubli qui était nécessaire.
On ne peut pas tout garder.
On ne peut pas tout garder.
Non, ça encombrerait la mémoire. Il faut essayer de garder les moments heureux de l'enfance, par exemple.
On y revient, hein, oui, à l'enfance.
Oui, oui, parce que
c'est vraiment un socle.
Un enfant s'émerveille de tout. Donc on a forcément dans le tiroir des moments comme ça d'émerveillement. Et on peut continuer sa vie en changeant de prisme. Mais on ne peut pas tout garder, non. Ce n'est pas possible. On est tout frais.
Ça me fait penser, justement, quand vous m'en aviez parlé au moment de la préparation, c'est Nietzsche aussi qui dit ça, le nécessaire oubli, et que l'oubli, en fait, c'est une faculté active.
Oui.
C'est-à-dire qu'à un moment, enfin, je ne sais pas comment on peut le faire vraiment, mais de décider d'oublier certaines choses et d'en conserver d'autres. Passer à autre chose. Et tu as parlé d'autres choses, de prisme de lecture, on va y revenir, mais... D'abord, Mélanie, puisque tu es là et puisqu'on parle de l'enfance depuis tout à l'heure, d'une certaine manière, tu es venue avec une chanson qu'on va peut-être écouter. Tu vas nous dire après pourquoi.
D'accord.
I felt the branches of it looking at me.
Somewhere Only We Know, une chanson de Lily Allen de 2014. Alors Mélanie, pourquoi cette chanson ?
Ben, cette chanson m'a toujours fait du bien. La musique en général me fait du bien. J'ai commencé à faire du piano l'année dernière après un traumatisme aussi. Et cette musique en particulier, depuis que j'ai 14 ans, je l'écoute du coup, depuis 2014. Je l'ai apprise en français et en anglais. Et elle fait beaucoup travailler l'imaginaire, je trouve. Et il dit cette chose simple, où es-tu passé ? Je me fais vieux. J'ai besoin de quelqu'un à qui parler. Comme s'il parlait à un vieil ami. Et c'est pour ça que moi, je le traduis à cet enfant intérieur. Cette chose simple, c'est quand on est enfant, qu'on voit les choses doux. Et qu'on arrive tout doucement à se construire un imaginaire. Et quand on vieillit, généralement, on oublie de se faire cette bulle d'imaginaire dont on a besoin pour respirer. Et je la trouve douce et entraînante, cette musique.
Et rassurante, du coup, d'une certaine manière.
Oui, berçante.
D'un enfant intérieur.
C'est ça. Ça aide à se retrouver à l'intérieur de soi, oui. Et à se souvenir peut-être de... Moi, j'imagine vraiment une balade sur un chemin et une personne plutôt âgée qui se demande vers un banc, ben, voilà, où est cet enfant intérieur qui se mettait à courir dans la neige, qui s'amusait sans réfléchir. Pardon. Genre, oui.
Et l'idée, ce serait quoi de... retrouver cet enfant intérieur ou pas de le retrouver, mais qu'il soit toujours présent à côté de soi.
Qu'on l'ait toujours en soi. Ouais. Qu'on puisse... Moi, j'avais une éducatrice, parce que je vivais en foyer, qui était très mature, très adulte, mais qui arrivait toujours à faire l'enfant à un moment. Et quand il fallait être sérieux, elle se mettait sérieuse. Et elle était très dans les Disney et tout. Et je disais, ah, plus tard, j'aimerais bien faire comme toi, arriver à faire vraiment ce milieu-là. Et garder cette partie enfant quand même, qui est quand même importante, innocente et qui fait toujours du bien.
D'enfant éternel, alors, on pourrait dire. Guillaume, toi, tu es venu avec le texte de Christophe, c'est ça ?
Oui, c'est ça, oui. Christophe qui est un grand poète, qui se saisit toujours des propos qu'il peut piocher à gauche, à droite dans le journal et qui les remixe complètement à sa... à sa manière, à son style en fait, et à chaque fois nous fait progresser aussi au-delà des échanges qu'on a pu avoir. Donc je vous partage ce texte. Monsieur tuteur, client personne, effet numérique, occasion revivre passager, informel sujet, candidat, réforme lieu numérique. Sujet formel, édiction prospectus intense, l'enfant éternel, chose individuelle nommée à son nom, abréger sa science, captif son mot. Christophe.
Waouh, ouais. Alors là, il faudrait presque le mettre sur le site internet pour le relire et le relire encore.
On lui demandera, mais je pense que c'est possible.
Ouais.
Voilà, effectivement, après la difficulté, parce que moi maintenant je commence à arriver à le lire, à le déchiffrer pour faire la saisie des textes, j'ai toujours énormément de difficultés, chose que Guillaume, lui, arrive très bien à faire maintenant, de mettre la ponctuation qui va avec. Parce que, voilà, Christophe ne met pas de ponctuation, il aligne les mots, de temps en temps il met un point, mais du coup, moi je sais pas. J'arrive pas à le ressentir de la même manière que toi, Guillaume, ce qui fait que à chaque fois qu'on l'écoute, on découvre le texte différemment.
C'est peut-être aussi pour ça qu'il n'y a pas de ponctuation, peut-être.
Ça laisse la place à l'interprétation, mais à chaque fois que je relis ce texte, je l'entends différemment aussi. C'est la magie aussi de
de la poésie.
De la poésie, oui.
Alors, pour revenir à notre discussion de ce lien, enfin de ce qui peut, du processus créatif par lequel on se rétablit, il y a eu, on a parlé également de prisme par lequel on relie notre histoire, notre rapport à soi. C'est toi notamment, Edith, qui en a reparlé. Et pendant la préparation aussi, vous m'en avez parlé de cette nécessité. Et ça m'a fait penser. Alors, vous, je ne sais pas comment vous le mettez en place. Première question. Comment vous arrivez à.
On peut réinventer un prisme de réalité du passé via l'imaginaire qui influe sur le réel. On reconstruit une réalité plus agréable.
Alors,
le processus de création, ça permet ça, cette reconstruction.
Ouais. Je voulais vous faire agir, peut-être je suis hors sujet, hein, mais quand vous m'en avez parlé, ça m'a fait penser à quelque chose.
De toutes les couleurs, comme le diamant.
Ah.
Ouais, ça me fait penser à ça aussi, avec les couleurs
par un autre
multiples.
C'est ça.
Selon l'orientation de... Du diamant, oui.
Regardez par une autre couleur, et finalement ça me fait penser à ce que Joanne, tu as mis en place, c'est-à-dire un appartement à tes couleurs, à deux nouvelles couleurs qui vont te permettre, toi, face à ces couleurs, de te repositionner. Ouais.
J'ai un peu la même chose que Joanne, parce que j'ai redécoré mon appartement et ça m'a fait sortir de chez moi parce que je chine beaucoup. Donc je vais à la recyclerie tous les samedis matin, donc c'est une porte vers l'extérieur, et puis je rentre chez moi évidemment, et je décore mon appartement. Donc il y a ce mouvement de va-et-vient, vous savez, comme la marée qui descend, qui monte.
Et qui remonte avec elle, avec certaines choses de la mer.
Certains trésors.
Oui. Ouais, certains trésors.
C'est ça, oui.
Quelquefois c'est des trésors en plastique, mais bon.
Tu parles du prisme, alors du coup moi ça me fait penser à peut-être que la maladie, ce qui nous fait mal, c'est le soleil en pleine poire, et puis il faut mettre des lunettes teintées ou une protection, et puis suivant comme on tourne le prisme justement en face du soleil, on peut avoir soit des couleurs chaudes vers le rouge, soit des couleurs froides vers le bleu. Et peut-être que toute l'astuce, c'est d'arriver à équilibrer ce prisme pour avoir ni trop chaud ni trop froid. Autrement dit, être bien dans sa tête et puis pouvoir retourner vers les autres. Et effectivement, suivant l'humeur ou suivant les jours, on met un peu plus de rouge ou un peu plus de vert. Et puis... Et puis on fait des peintures.
Mais comment on y parvient ? Mais comment on y parvient ? Parce que ça voudrait dire quoi ? Qu'on le décide ? Mais je vous pose la question à vous, mais je pense que c'est plus compliqué que ça, non ?
Eh bien, en fait, alors on revient au processus très personnel dont parlait Guillaume tout à l'heure. Pour moi, c'est ma manière de... Peut-être de voir ce qui m'entoure, avec ma vue de myope. Et puis d'estomper ce qui m'agresse, ce qui me fait mal, pour mettre en relief des choses rassurantes et des choses qui nous ramènent, effectivement, qui peuvent nous ramener à l'enfance, à un moment où, comme c'est dit dans la chanson, tout était simple, tout était facile et sans masque, sans phare.
Quand je faisais des acryliques, j'ai constaté que je faisais des acryliques avec des couleurs chaudes et puis avec des couleurs froides, mais c'était pas réfléchi, c'était pas choisi, c'était spontané. Oui.
C'était spontané, donc quelque chose que tu ne maîtrisais pas, en fait, ça te venait comme ça.
Ouais, comme un flot.
Je vais jusqu'au bout, parce que je suis pas allée au bout tout à l'heure. Ça m'a fait penser à un neurobiologiste, je pense, québécois, qui s'appelle Pierre Cousineau, je ne sais pas si ça vous dit, qui est spécialiste de la mémoire et des théories des schémas, où il dit, en substance, c'est pas lui qui le dit d'ailleurs, il y a la mémoire épisodique, c'est-à-dire la mémoire des faits, enfin, ce qui s'est réellement produit, et puis il y a les mémoires sémantiques, c'est-à-dire ce qu'on y infère, ce qu'on associe à cet événement, la manière dont on se représente cet événement. Et si on ne peut pas changer l'événement en lui-même, donc la mémoire épisodique, par contre, ce qu'on a inféré et ce qu'on a associé à cet épisode, oui, ça, on peut le changer. Et qu'on peut le changer par une expérience, parce que c'est pas là, voilà, c'est pas qu'une question de volonté, mais c'est par l'expérience, on peut, une nouvelle expérience, voilà, peut nous faire changer et aller au-delà de ce qui nous handicape ou nous traumatise. Je sais pas si ça vous parle, ou si je suis hors sujet.
Non, non, on n'est pas du tout hors sujet. Je crois que c'est pour ça aussi que dans le processus de rétablissement, on ne peut pas être tout seul, qu'on a besoin de l'autre, un autre à qui on va pouvoir parler, qui va nous écouter, qui va prendre le temps de cette écoute. Parce que justement, remettre des mots sur ce qui a pu nous arriver dans le passé, c'est absolument essentiel. Si on prend l'exemple du traumatisme, c'est une fixation de mots sur un événement et qu'on n'arrive plus à sortir. Et il y a besoin de reposer des mots, prendre le temps de reposer des mots et pour reconstruire cette histoire et notre rapport à cette histoire.
Mélanie,
si je peux parler du piano. Moi, c'est avec le piano, quand j'étais enfant, on me disait qu'aucun instrument, aucune musique, j'avais pas le droit. Parce que, soi-disant, j'étais pas assez patiente, pas assez ça. J'étais beaucoup rabaissée, autant à l'école qu'à la maison. Et l'année dernière, après ce qui m'est arrivé de traumatisant, j'ai été accueillie par des amis très bienveillants et qui m'ont ouvert leurs portes avec un piano chez eux. Et ils m'ont laissé découvrir cet instrument. Ils m'ont donné des conseils pour ceux qui s'y connaissaient et tout ça. Et ça m'a permis d'avoir des personnes plus âgées qui me montraient qu'avec un peu de confiance, je pouvais arriver à faire du piano et que j'avais le droit, moi aussi, d'essayer. Donc on peut se reconstruire. J'ai perdu le fil.
Ouais. Non, mais de nouvelles expériences, ouais, en fait, voilà. Sur quelque chose de traumatisant, de nouvelles expériences.
C'est ça. Et ça m'a fait énormément de bien de découvrir cet instrument.
Moi, c'est pareil, j'avais pas trop le droit d'écouter de la musique, parce qu'écouter de la musique, c'était perdre son temps. À la maison, il fallait travailler, faire du ménage. Il y avait l'école, mais à l'école, j'avais pas de soutien scolaire. Et donc, j'ai retrouvé par la suite, toujours grâce à ma recyclerie, où je peux acheter des CD pour 1 euro. J'ai retrouvé le plaisir, enfin, j'ai pas retrouvé, j'ai trouvé le plaisir d'écouter de la musique. Et puis c'est aussi la radio, grâce à un voisin chinois qui écoutait sa radio tous les jours à midi. Et sur le moment, je ne pouvais rien faire, pas écouter la musique ni la radio. Mais par la suite, tous ces désirs-là sont revenus, oui.
Alors là, tu ouvres des pistes, mais c'est la fin de cette émission. Et comme toujours, les pistes sont ouvertes à la fin. Donc nous allons pouvoir continuer l'émission hors micro. Je rebondis juste parce que tu as parlé plusieurs fois de recyclerie. Maintenant, on parle aussi de upcycling, c'est-à-dire refaire quelque chose encore de mieux, de meilleur, de plus beau à partir de quelque chose qui est recyclé. Oui. Et j'ai l'impression que c'est un peu presque métaphorique de ce qui nous arrive à tous. On recycle les choses, mais pour sortir de leur vieil usage et en faire un nouveau.
On recycle sa vie.
Bon, voilà. Alors, restons là-dessus. Merci beaucoup, tous les cinq, d'être venus jusqu'ici pour nous parler. Et maintenant, la vraie discussion peut avoir lieu. Mais restez à l'écoute, malgré tout, chers auditeurs de Fréquence 7 et auditrices, puisque à 13h, ce sera Haïku tout court, à 15h, le Telex, à 16h, l'Imaginoir, à 17h, c'est la rediffusion de cette onde curieuse, à 18h, Solidaire d'abord, à 19h, Tu danses, à 20h, c'est Chez Tonton, une petite incursion dans les musiques panafricaines, et à 21h, Hexagone Jazz. Merci beaucoup Sylvain pour la réalisation de cette émission et on se retrouve demain pour une prochaine Onde Curieuse. Ciao.